On est le lundi 22 juin 2026 et imaginons un instant posséder le ticket gagnant de la plus grande loterie énergétique de notre siècle. Vraiment une mine d'or géographique littérale en fait.
Ouais, le genre d'endroit où le soleil tape avec une intensité record et où le vent souffle presque sans s'arrêter, quoi.
Exactement. Et théoriquement, avoir ça sur son territoire, c'est détenir les clés de la transition énergétique mondiale. On se dit que c'est l'assurance d'une richesse infinie, non? Sauf que, y a un piège. Un piège d'une brutalité inouïe.
Et c'est un piège que beaucoup de gens refusent de voir, malheureusement.
C'est clair. Le truc, c'est que si une infrastructure très spécifique, en gros, un simple tuyau d'acier, n'est pas construite et physiquement connectée au bon client dans une fenêtre de temps hyper étroite de quelques années, ce ticket de loto ne vaudra absolument rien sur le marché.
C'est vraiment le mirage géopolitique parfait de notre époque, en fait. Parce que tu sais, on a tellement été habitués à penser la puissance énergétique à travers le vieux prisme du pétrole.
Ouais, l'économie de la ressource pure.
Voilà, c'est ça. On applique aveuglément les mêmes logiciels mentaux à l'hydrogène vert. Dans la logique pétrolière, si un pays avait du brut dans son sous-sol, genre l'Arabie Saoudite ou le Qatar, il avait de facto le pouvoir.
Le pouvoir économique et géopolitique, ouais.
Tout à fait. Or, la physique, la chimie et même l'économie brutale de cette nouvelle molécule racontent une histoire radicalement opposée, en fait.
Et c'est précisément ce vertige conceptuel qu'on va décortiquer aujourd'hui dans cette plongée en profondeur. On s'appuie sur un dossier massif, un dossier qui vient tout juste d'être publié aujourd'hui même par la revue EcoBusiness.
Un groupe de presse super influent d'ailleurs, ils ont fait plus de 67 millions de vues sur les réseaux ce trimestre.
C'est dingue! Et ils s'attaquent bien en tête à ce mythe tenace. Le cœur de leur enquête, c'est le pari pharaonique du Maroc sur l'hydrogène vert. On parle d'un plan d'investissement annoncé à 319 milliards de dirhams.
C'est colossal.
Mais le but pour nous, et pour quiconque s'intéresse à la géopolitique, aux investissements de demain, c'est pas juste de lister des zéros sur un chèque. La mission de ce décryptage, c'est de séparer le mythe de la réalité. C'est de voir comment un avantage naturel brut doit être transformé en une stratégie implacable pour ne pas finir en mirage.
Pour bien comprendre ça, il faut d'abord qu'on déconstruise cette idée de rareté. Dans le pétrole, la rareté, elle est géologique. Un gisement est à un endroit précis et tu peux pas le délocaliser.
Tu creuses, oui, il y en a, point barre.
C'est ça. Mais l'hydrogène vert, ça change tout. De quoi on a besoin, en fait? D'eau, de grosses machines qu'on appelle des électrolyseurs, de beaucoup de vent et d'un soleil ardent. Le vrai problème stratégique, c'est que ces éléments sont super démocratiques à l'échelle planétaire.
La ressource, elle est littéralement partout. Enfin, l'Australie a des déserts infinis, le Chili bat des records d'irradiation solaire dans l'Atacama.
La Namibie a des vents parfaits aussi.
Ouais, et le Maroc aligne 3000 km de côte balayés par les vents. Donc si tous ces acteurs majeurs peuvent produire la même ressource, avoir du soleil, c'est plus un avantage suffisant en fait.
Mais non. La bataille, elle se joue exclusivement sur un terrain que les enthousiastes oublient tout le temps, c'est la logistique. Et surtout, le coût final de livraison.
Le nerf de la guerre.
Exactement. La production s'est banalisée, donc le pouvoir, il s'est déplacé vers le transport. C'est le fait d'acheminer cette molécule jusqu'aux usines européennes, au prix le plus bas, qui va définir les superpuissances de demain.
C'est fascinant parce que les sources expliquent à quel point l'hydrogène, c'est un véritable cauchemar physique à déplacer. On a l'habitude de voir des énormes navires qui transportent le gaz naturel liquéfié, tu sais, à travers les océans.
Les fameux méthaniers, ouais.
Ouais, voilà. Donc, la tentation, c'est de se dire, on va juste faire la même chose avec l'hydrogène du Chili ou d'Australie. Pourquoi ça marche pas, ça?
Parce que la physique moléculaire, elle te pardonne rien. L'hydrogène, c'est la molécule la plus petite et la plus légère de l'univers. Déjà, elle a tendance à fuir à travers les métaux, mais surtout, sa densité énergétique par volume, elle est ridicule.
Donc, il en faut beaucoup pour faire peu d'énergie.
C'est ça. Et pour le liquéfier, pour qu'il rentre dans un bateau, il ne suffit pas de le refroidir un peu. Il faut descendre à moins 253 degrés Celsius.
Attends, moins 253 degrés Celsius, mais on frôle le zéro absolu, là.
On y est presque, ouais.
Maintenir un navire gigantesque à cette température extrême pendant, 3 semaines de traversée, ça doit consommer une énergie aberrante.
Ah, mais ça détruit complètement le modèle économique. Une part énorme de ta cargaison, elle serait consommée juste pour maintenir le reste au froid. Donc face à ce mur, les pays éloignés, comme l'Australie, ils trichent avec la chimie.
Ils font comment?
Ils prennent l'hydrogène, ils captent de l'azote dans l'air et ils mélangent le tout pour créer de l'ammoniac vert.
Parce que l'ammoniac, c'est plus stable à transporter sur un bateau, c'est ça?
Ouais, ça se liquéfie à des templates acquis beaucoup plus normales. Sauf que l'usine européenne, à l'arrivée, elle veut pas d'ammoniac, elle. Elle veut de l'hydrogène pur pour ses hauts fourneaux.
Ah oui, donc il faut faire le chemin inverse.
Voilà. Il faut réceptionner l'ammoniac, construire une usine de craquage, casser les molécules, séparer l'azote pour récupérer l'hydrogène.
C'est un délire. On crée de l'hydrogène, on dépense une fortune pour en faire de l'ammoniac. On le met sur un bateau, on traverse la planète et on redépense une fortune pour refaire de l'hydrogène. La perte d'énergie, elle doit être monumentale.
En cumulé, tu perds facilement 30 à 40% de ton énergie initiale. Sur la facture, toutes ces manipulations, ça rajoute entre 1 et 2 euros par kilo sur le prix de l'hydrogène.
C'est énorme.
Pour la sidérurgie européenne qui calcule ses marges au centime près, c'est un arrêt de mort commercial. Personne n'achètera ça.
D'où l'analogie que je voulais proposer pour ceux qui nous écoutent. Si on considère l'énergie solaire comme un immense champ de blé, l'Australie, elle a un champ géant. Mais la boulangerie, elle est à l'autre bout de la planète.
Ouais, c'est une bonne image.
Et le transport en bateau coûte tellement cher que la farine, à la fin, elle rend le pain invendable. Alors que le pays d'à côté, qui a un champ plus petit, mais qui peut mettre un tapis roulant direct vers le four du boulanger, il rafle tout le marché.
Ce tapis roulant, dans notre monde, c'est le gazoduc, le pipeline en fait. Ça t'évite la liquéfaction de l'extrême et l'ammoniac. Le gaz circule en continu et le transport te coûte que quelques dizaines de centimes par tranche de 1000 km.
C'est rien du tout comparé au bateau.
Et c'est ça, l'atout maître du Maroc. Le Chili ou la Namibie, ils pourront jamais tirer un tuyau sous l'Atlantique jusqu'en Europe, c'est pas possible. Mais le Maroc, il est juste séparé de l'Union européenne par le détroit de Gibraltar. L'alignement géographique, il est parfait.
C'est vrai que la théorie, elle est super séduisante. Mais une carte de géographie, ça signe pas des contrats? Quand on lit les sources en détail, on a un peu le vertige face aux chiffres.
Les 319 milliards, tu veux dire?
Ouais. L'offre Maroc, sur le papier, c'est une armada incroyable. 319 milliards de dirhams d'investissement, jusqu'à 1 million d'hectares mobilisables, et 5 gros consortiums internationaux déjà là, comme ORNX, Akadewa Power, Takamo EV. On a l'impression que la machine, elle roule à 200 à l'heure sur l'autoroute.
Il déploie les grands moyens, c'est indéniable. Mais le dossier d'éco-business, il met un peu une douche froide quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté de la mer.
Du côté européen, ouais.
Ouais. L'Europe, en ce moment même, elle coule le béton de sa nouvelle architecture. L'Union européenne déploie le European Hydrogen Backbone. C'est un réseau de 53 000 km de gazoduc du site 2040.
53 000 km, ah ouais.
Ils reconvertissent même des vieux tuyaux de gaz naturel.
Et il y a aussi le corridor H2Med entre l'Espagne et la France qui avance bien. Mais le truc qui fait vraiment tiquer quand on lit le dossier, c'est le statut du Maroc là-dedans. Au milieu de tous ces chantiers européens, le Maroc est seulement cité comme, je cite, « partenaire potentiel ».
Ouais, c'est le terme diplomatique.
Mais comment un acteur qui met 319 milliards sur la table peut se retrouver relégué à un simple partenaire potentiel? C'est comme être sur la liste d'attente d'une boîte de nuit super select pendant que les autres sont déjà en train de commander au bar. La porte va se fermer quand?
Le souci, c'est que le temps industriel, il attend pas la diplomatie. Partenaire potentiel, à Bruxelles, ça veut dire que le tuyau n'est ni financé, ni formellement dans le planning immédiat. L'Europe, elle dépense ses milliards aujourd'hui pour creuser des tranchées qui serviront dans 10 ans.
Donc la fenêtre d'opportunité, elle est en train de se refermer super vite, si ça ne se transforme pas en intégration formelle d'ici, 5 ans maximum?
Même moins. Si ce n'est pas verrouillé bientôt, les capitaux vont aller ailleurs, vers la mer du Nord ou l'Europe de l'Est. Et l'avantage du détroit de Gibraltar, il ne servira à rien.
Surtout que le chronomètre tourne dans un contexte mondial qui est... le dossier parle d'une purge historique.
Le mot est pas trop fort. Le marché mondial de l'hydrogène, il est en train de se crasher. Sur toutes les capacités de production qui ont été annoncées en grande pompe ces dernières années, t'as une idée de ce qui a été vraiment livré dans les temps?
Les sources disent 7%.
Seulement 7%.
C'est un taux d'échec de...
De 93%. C'est un bain de sang industriel.
Mais c'est fou, on parle pas de petites start-up de la Silicon Valley, là. On parle de géants. BP a annulé un projet de 36 milliards en Australie. Shell a carrément jeté l'éponge sur le projet Okra. Ces boîtes, elles ont des armées d'ingénieurs. Comment elles peuvent se tromper à ce point sur les maths?
Parce que les maths marchaient sur un fichier Excel. Mais dans la vraie vie, avec la chaîne d'approvisionnement, c'est l'enfer. Produire de l'hydrogène vert, ça demande une synchro parfaite. Faut construire des fermes solaires géantes, des éoliennes et des usines d'électrolyse en même temps.
Ouais.
Et les électrolyseurs, ça coûte une fortune. Pour être rentable, il faut qu'ils tournent tout le temps.
Ce qui pose un problème évident d'intermittence. Si tu dépends du soleil, ton usine, elle dort la nuit. Et si l'électrolyseur dort, ton capital est pas enfumé.
Exactement. Faut coupler l'éolien la nuit et le soleil le jour avec une précision de dingue. Et par-dessus ça, t'as eu l'inflation post-Covid. Sur le cuivre, sur l'acier. et les taux d'intérêt qui ont explosé.
Ah oui, l'emprunt coûte beaucoup plus cher.
Quand ton coût de la dette double, ton projet sur 20 ans, c'est plus la peine, c'est un gouffre. Donc BP Échelle, ils ont fait leur calcul, ils ont tout stoppé.
Et donc, c'est dans ce bain de sang mondial à 93% d'échecs que le Maroc essaye de naviguer. Et là, le dossier met le doigt sur un truc super intéressant en interne, ce qu'ils appellent le brouillard stratégique.
La bureaucratie, le grand classique.
C'est ça. Pour réussir là où Shell échoue, il faudrait être ultra agile. Or là, on a Mazen, le ministère de l'énergie, celui de l'industrie, l'OCP, l'IREZEN, l'ANRE. C'est pas un manque de compétences. Le problème, c'est la structure de décision.
Il n'y a pas de chef d'orchestre unique. T'as pas un seul guichet avec le pouvoir final. Chaque entité a son propre agenda. Le chercheur veut innover, le ministre de l'énergie veut sécuriser le réseau local et l'industriel veut du volume pour lui.
C'est exactement comme une boîte avec 10 PDG visionnaires, mais zéro chef de projet sur le terrain pour juste signer les contrats, quoi. Quand un fonds étranger débarque avec ses milliards, il voit le potentiel, mais s'il ne sait pas qui est le stylo pour signer sur 20 ans, il s'en va.
Le capital déteste l'incertitude, surtout avec un risque initial aussi énorme. Et du coup, ça nous amène à la vraie question. Comment survivent les 7% de projets qui réussissent ?
Ouais, qu'est-ce qu'ils font différemment, ces 7% ?
Bah, ça se joue pas sur la technologie ou sur la taille du terrain. Ça se joue sur les contrats, ce qu'on appelle les off-take.
Les accords de prélèvement ferme.
C'est ça. Avant même d'acheter un seul panneau solaire, le développeur va voir un sidérurgiste allemand ou un gros chimiste et il lui fait signer un contrat en béton. Le client s'engage à acheter toute la production sur 15 ou 20 ans à un prix déjà fixé.
Donc en gros, la demande captive précède complètement l'offre. Tu lances le projet uniquement parce qu'il est déjà vendu. L'ambition, ça devrait plus se mesurer en milliards annoncés à la télé, mais en off-take signé.
Le seul indicateur qui compte face à un banquier, c'est un contrat ferme avec un client solvant. Sans ça, tu construis rien.
Ok, alors projetons-nous un peu. Imaginons le scénario parfait. Le brouillard stratégique se lève, le tuyau traverse le détroit de Gibraltar, les contrats sont signés. Il y a une question philosophique et économique énorme qui se pose dans le dossier. On fait quoi de cet hydrogène au final ?
Ah bah, la tentation fatale, ce serait de l'exporter brut. Si le Maroc fait ça, il reproduit le vieux modèle toxique. Tu extrais ta ressource, tu la vends pas cher à l'étranger et tu rachètes leurs produits finis à prix d'or.
Le fameux piège de la matière première. On devient juste une station-service verte pour l'Europe.
Voilà. Alors que l'alternative ? La vraie stratégie gagnante, c'est de garder la molécule à la maison pour déclencher une réindustrialisation.
Utiliser l'hydrogène sur place, donc.
Exactement. Faire de l'ammoniac vert sur le sol national. Pour l'OCP, par exemple, c'est vital. C'est la base des engrais. L'OCP, ils ont réussi parce qu'ils n'ont pas juste creusé de la roche pour la vendre. Ils ont construit des usines chimiques autour.
Ils ont créé l'industrie de transformation.
Et avec l'hydrogène, on peut faire ça avec l'acier vert, le ciment bas carbone. Mais ce qui rend cette idée de réindustrialisation vraiment inévitable, c'est ce qui se passe en Europe avec la taxe carbone aux frontières.
Le CBAM, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
Ouais, faut vraiment qu'on explique ça, c'est crucial. L'Europe va pénaliser lourdement les importations polluantes. C'est une arme commerciale redoutable. En gros, l'Europe impose des normes environnementales très strictes à ses propres usines, ce qui fait exploser leurs coûts. Pour pas qu'elles se fassent massacrer par l'acier bon marché fait au charbon en Asie, l'Europe va taxer ses importations pour égaliser le prix de la pollution.
Attends, donc si je résume. Un constructeur automobile européen veut acheter des plaques d'acier très polluantes mais super pas chères à l'autre bout du monde. Quand cet acier arrive à la douane européenne, bam, une taxe massive est appliquée en fonction de son empreinte carbone.
Et l'acier sale devient d'un coup hors de prix.
Donc les géants industriels sont coincés. S'ils veulent vendre en Europe, qui est quand même un marché gigantesque, ils doivent décarboner leurs usines, et vite.
Sauf qu'en Europe, l'énergie verte coûte cher et il n'y a pas de place pour faire des parcs solaires géants.
Et voilà la logique économique qui s'éclaire. Le vrai but du Maroc, c'est pas de tirer un tuyau pour envoyer du gaz en Allemagne. C'est de dire aux industriels allemands, regardez, ici on a du terrain, de l'énergie propre et pas chère. Venez déménager vos hauts fourneaux ici.
Branchez-vous directement à la source et ensuite, vous exportez vos produits finis vers l'Europe, garantie zéro carbone, sans payer aucune taxe douanière.
C'est brillant. L'hydrogène, c'est plus juste un produit qu'on vend, ça devient un aimant pour attirer l'industrie mondiale. C'est là que se créent les vrais emplois et les transferts de technologies.
Mais ça demande une gouvernance d'une solidité absolue.
Donc si on fait une synthèse rapide pour notre audience, le soleil et le vent, c'est cool, mais sans un pipeline physique vers le client, le coût du transport par bateau détruit tout. Ensuite, sans contrat de vente ferme, les investissements s'évaporent au moindre coût de vent financier.
Et le chiffre de 319 milliards, c'est juste le droit d'entrée pour s'asseoir à la table de poker, en fait.
Ouais, c'est une leçon qui dépasse complètement l'énergie. Que ce soit pour un pays, une entreprise ou même un projet perso. Avoir le meilleur talent ou la meilleure ressource, ça suffit pas. C'est l'exécution, l'infrastructure et la sécurisation de la demande qui comptent. L'exécution dévore le potentiel.
C'est une excellente conclusion. L'exécution dévore le potentiel.
Mais avant de se quitter, je voulais laisser notre audience avec une petite hypothèse vertigineuse pour prolonger tout ça. On a bien vu que transporter l'énergie coûte immensément plus cher que de l'utiliser sur place. Si cette loi physique s'impose dans les décennies à venir, est-ce qu'on va assister à l'impensable ?
C'est-à-dire ?
Une migration physique massive des grandes villes industrielles européennes, des usines historiques, des forges géantes qui quitteraient le nord de l'Europe pour s'implanter sur les côtes nord-africaines, juste pour être branchées à la source la moins chère du monde.
Ça inverserait un siècle de dynamique industrielle nord-sud.
Exactement. Ce serait plus juste une transition énergétique, ce serait un basculement géopolitique total. Les centres de gravité changeraient de continent, bref... Continuez à observer ces mouvements de fond, parce que si la géopolitique essaye de dicter ses règles, à la fin des fins, c'est toujours la physique implacable qui dessine la carte du monde. Merci à tous d'avoir suivi cette exploration.